Bien, bonsoir à chacun et chacune, rescapés d'un week-end prolongé. Nous abordons aujourd'hui un deuxième thème de ce volet de notre petit parcours où je vous propose quelques thèmes de théologie comparée pour prendre la mesure des grands enjeux dans la rencontre interreligieuse en mettant en œuvre ce que nous avons déjà pu découvrir dans la première partie du cours, mais en voyant quelque peu les conséquences et les enjeux dans la rencontre. Et je vous propose ce soir de nous arrêter à la figure d'Abraham. Vous avez tous très certainement déjà entendu ces expressions « fils d'Abraham » ou « famille d'Abraham » pour désigner les trois grandes traditions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Vous connaissez probablement tous aussi ce grand poster qui illustre pas mal de murs de salles de catéchèse ou d'un grand arbre représentant toutes les branches qui se rattachent à Abraham. Et effectivement, chacune de nos traditions juives, chrétiennes et musulmanes connaissent un personnage du nom d'Abraham, mais il vaut la peine de voir ce que chacune d'entre elles en dit pour mesurer la pertinence ou non de la catégorie abrahamique pour aborder les relations islamo-chrétiennes. Il peut y avoir un recours abusif à cet illustre patriarche qui brouille les cartes plutôt qu'il n'aide à y voir clair. Je voudrais pour cela procéder en deux temps. Tout d'abord, rappeler brièvement peut-être les grands traits de la figure d'Abraham dans chacune des trois traditions. Et puis, dans un second temps, de voir les enjeux de cette figure d'Abraham en théologie chrétienne des religions, les questions théologiques que cela soulève pour nous chrétiens. Dans le judaïsme, tout d'abord, si nous prenons le livre de la Genèse, nous voyons qu'Abraham marque un nouveau commencement. Lorsque le livre de la Genèse décrit l'aventure humaine, il y a comme trois commencements, un premier en Adam, un second en Noé et un troisième en Abraham. Les deux premiers ont conduit l'humanité dans une impasse et la figure d'Abraham vient ouvrir une voie nouvelle face à ces impasses que l'humanité a rencontrées. C'est la lecture en particulier que fait le livre de la Sagesse quand il fait une relecture des grandes étapes de l'histoire du salut. Il présente la figure d'Abraham précisément comme la réponse à l'impasse dans laquelle l'humanité s'est trouvée après la tour de Babel et le déluge. Donc Abraham marque un nouveau commencement et cela se remarque dans le récit au fait qu'il reçoit une mission différente de celle de Adam et Noé. Adam reçoit la mission de dominer la terre, Noé de la remplir, tandis qu'Abraham devra quitter sa terre pour une terre inconnue. Auparavant, l'homme prenait possession de la création en occupant l'espace à la manière des sédentaires, et l'échec de cette façon de faire est marqué par le déluge et surtout par la dispersion de Babel. La voie est alors ouverte aux nomades. Abraham part pour un autre pays. Et dorénavant, ce sont vraiment le temps et l'histoire qui vont marquer l'expérience humaine d'une façon décisive. Et là, je crois que c'est un élément très important à souligner. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans les grands enjeux. C'est cette question du rapport à l'histoire. Abraham, dans la tradition juive, ouvre un temps nouveau, ouvert sur l'inconnu, où on part vers un pays que l'on ne connaît pas. La relation d'Abraham avec son Dieu et sa marche dans le temps vont donner un sens nouveau à la vie qui est fait de confiance et d'espérance en l'avenir. Si l'on marche, c'est parce que l'on estime qu'au terme de la marche, il y aura mieux que l'endroit où l'on se trouve. À la différence du sédentaire qui reproduit des gestes appris, le nomade doit s'accoutumer à l'imprévu, à l'inconnu. La marche pour vivre doit sans cesse être reprise pour atteindre un but qui ne satisfait jamais durablement. Et pour parcourir ce chemin, l'homme ne peut pas s'appuyer sur ses propres ressources. Il lui faut la confiance en celui qui accompagne, qui guide et qui conduit au puits pour pouvoir trouver de l'eau. Et sur ce chemin, l'épreuve du sacrifice d'Isaac marque la confiance absolue qu'Abraham donne et à laquelle Dieu répond par une promesse de fidélité. Et dans le long silence qui suivra, Abraham n'a que cette promesse comme recours qui, dans sa réalisation sans cesse différée, soutient son espérance. Abraham, dans le récit, nous apparaît donc comme l'homme de la confiance, de la promesse, celui qui s'engage vers un avenir. Si nous prenons les grands traits de la figure d'Abraham dans la tradition chrétienne, il y a bien sûr une reprise des éléments structurants de la tradition juive. Abraham apparaît effectivement comme l'homme de la promesse et de la foi, mais ces deux éléments, de la promesse et de la foi, seront relus dans une perspective christique à la lumière de l'expérience chrétienne. La promesse va se réaliser progressivement dans l'histoire du peuple de Dieu. Une étape importante sera bien sûr la libération de l'esclavage d'Égypte avec Moïse, la traversée du désert, l'alliance au Sinaï. Mais la perspective chrétienne verra surtout dans la personne de Jésus, celui en qui s'accomplit la promesse faite à Abraham. Rappelez-vous cette promesse faite au moment où il est appelé à quitter sa terre. Je ferai de toi une grande nation et une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Il y a une promesse qui est d'emblée universelle dans ce que Dieu annonce à Abraham. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons à plusieurs reprises que cette affirmation que les témoins du ressuscité voient précisément dans le Christ celui en qui s'accomplit effectivement cette promesse faite à Abraham. Je citerai par exemple les mots d'Étienne devant le Sanhédrin qui va le condamner dans les Actes des Apôtres, verset 17 du chapitre 7, lorsqu'il dit « Comme approchait le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham. » Cette référence à la promesse faite à Abraham est structurante pour la première génération chrétienne. Lorsque Marie accueille la promesse de l'ange, Elle chante dans son cantique, ainsi fait-il miséricorde à nos pères, ainsi se souvient-il de son alliance sainte, du serment qu'il a juré à notre père Abraham. La première génération chrétienne vit donc son expérience de foi comme étant l'accomplissement de la promesse faite à Abraham. Vous êtes, vous, les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec nos pères, quand il a dit à Abraham, « En ta postérité seront bénies toutes les familles de la terre. » Acte 3, 25. Donc pour la première génération chrétienne, Jésus apparaît comme celui en qui s'accomplit de façon définitive la promesse faite à Abraham. Il est l'aboutissement de la longue marche des hommes vers Dieu, puisque en lui, ils se rencontrent et s'unissent. La première alliance, qui concernait un peuple particulier, tout en étant déjà une promesse d'ouverture à toutes les familles de la terre, tu seras bénédiction pour toutes les familles de la terre, trouve cette ouverture dans la personne de Jésus et l'annonce de l'Évangile aux païens. Il y a donc un élément d'accomplissement, mais néanmoins aussi un accomplissement qui n'est pas plaigné. La promesse n'est pas réalisée pleinement pour toute l'humanité. Elle doit encore prendre corps dans le temps pour toutes les générations. C'est le sens que l'histoire chrétienne prend au regard de la foi comme étant ce temps où la promesse réalisée en Jésus s'incarne, prend corps dans l'histoire de l'humanité, dans ces deux vecteurs à la fois temporels et spatiels. Elle doit encore prendre corps, elle n'est réalisée que sous le voile de la foi, et nous attendons le jour du dévoilement et de la vision. La promesse réalisée en Jésus donc vient non pas clôturer l'histoire, mais vient la relancer. Elle se déroule désormais entre ce déjà-là de sa venue et le pas encore de la fin des temps. Donc cette dimension de promesse, la tradition chrétienne l'hérite de la tradition juive, et la reprend à son compte comme étant donc une tradition réellement historique. Parler d'un accomplissement n'est pas une façon de parler de la fin de l'histoire pour les chrétiens, mais bien une façon de se relancer dans l'histoire pour la vivre comme ce temps de la réalisation où le corps du Christ a à prendre corps dans toutes les dimensions de l'humanité dans son déploiement. Cet aspect d'homme de la promesse est donc relu dans une perspective d'accomplissement en Christ par la première génération chrétienne. Mais ce qui sera sans doute plus déterminant dans la façon de connoter la figure d'Abraham, puisque là, quand on relit le Christ comme l'accomplissement de la promesse faite à Abraham, on ne modifie pas fondamentalement la figure d'Abraham. Mais là, ce qui modifie peut-être davantage, c'est la relecture que Paul fera dans ce qu'il proposera en soulignant l'autre aspect présent dans la tradition juive d'Abraham comme homme de la foi. La confiance est incontestablement le trait marquant du destin d'Abraham. Mais cette confiance sera relue dans une perspective chrétienne pour dire que Abraham fut juste par la foi. Abraham crut en Dieu et cela lui fut compté pour justice. C'est un élément important dans la façon de relire l'identité chrétienne, puisque c'est ce qui permettra, dans la perspective paulinienne, de souligner que la loi n'est pas indispensable à la justice, puisque par la foi, Abraham est déclaré juste avant même que la loi soit donnée. Donc, c'est tout le thème paulinien de la justification par la foi. La figure d'Abraham, pour exprimer l'identité chrétienne, quand les chrétiens relisent Abraham comme un père dans la foi, met en jeu toute l'économie chrétienne, à la fois en termes d'accomplissement de la promesse faite à Abraham de bénédiction pour toutes les familles de la terre, mais également de justice par la foi. Hein, ce qui permettra, bien sûr, l'ouverture aux païens. Donc on voit bien aussi le lien entre ces deux éléments de la promesse et de la foi. C'est précisément parce qu'on peut être juste par la foi que les païens peuvent accéder à l'Église sans nécessairement devoir avoir recours à la loi, sans passer par le judaïsme. Donc l'ouverture à l'universalité se joue dans une relecture de la figure d'Abraham sous les traits de l'expérience de la mort et de la résurrection du Christ. Toute relation juste avec Dieu passe dorénavant par la relation avec Jésus et elle se fait filiale et fraternelle par la puissance de l'Esprit-Saint. Si vous appartenez au Christ, vous êtes de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse, dira Paul dans les Galates, verset 29 du chapitre 3. Désormais, tout homme peut devenir fils d'Abraham, ou mieux encore, enfant de Dieu, en suivant Jésus, c'est-à-dire en accueillant son esprit. Nous voyons donc la figure d'Abraham, qui est relue dès les premières générations chrétiennes, mais infléchie très clairement par l'expérience chrétienne. Si nous nous intéressons maintenant à la figure d'Abraham dans la tradition musulmane, nous avons une nouvelle perspective encore qui est proposée et qui est aussi fort différente. Abraham, ou Ibrahim dans le Coran, marque en fait davantage une rupture qu'un nouveau commencement. Nous savons que pour la foi musulmane, tout a été donné par Dieu à Adam. Par la suite, il n'y aura aucune révélation nouvelle, sinon des rappels de ce pacte originel auquel les hommes se sont montrés infidèles. Mais ce qui est rappelé par les révélations données aux prophètes n'est rien d'autre que ce qui avait été donné à l'origine à Adam. On n'est donc pas dans une perspective d'histoire, hein, mais bien dans une perspective de rappel de l'origine. Aucun prophète ne proclamera d'autre message que celui de l'unicité de Dieu et de la soumission à sa volonté. Et ce que la tradition musulmane soulignera alors, c'est que Abraham vivait au milieu d'un peuple idolâtre, semblable aux autres peuples de la terre, et qu'il va, d'une certaine façon, réinventer le monothéisme en revenant à ce que Dieu avait donné dès l'origine à Adam. Hein, c'est le thème que nous avons vu dans un des premiers cours, hein, à propos du sanctuaire de la Mecque, qui, dans la tradition musulmane, est, au moment de la vie du prophète Mohammed, un temple dédié à toutes les divinités du paganisme, mais que Abraham, avec son fils, va restaurer que Mohammed va restaurer à sa destination initiale, qui est une destination d'un temple qui a été construit par Abraham et son fils Ismaël comme temple au Dieu unique. Donc, le temple de la Mecque construit par Abraham et Ismaël pour le Dieu unique, détourné pour la culture païenne, et Mohammed vient le restaurer à sa destination initiale. On voit bien que chaque intervention divine se marque donc comme un retour à l'origine et pas une projection dans l'histoire. Et ce qui est aussi très déterminant, c'est de voir comment la tradition musulmane présente le chemin de foi d'Abraham. Comment est-il passé, appartenant à un peuple idolâtre, à la foi au Dieu unique? Bien, c'est en contemplant les astres. En contemplant les astres que ses pères considéraient comme des dieux, mais lui, en réfléchissant et en contemplant de façon juste, est conduit à reconnaître l'unique et immuable source de lumière dont les étoiles ne sont que des reflets éphémères. C'est donc une démarche rationnelle qui va de la créature au créateur et à son adoration. Et on touche là à un des éléments importants relatifs à la perception musulmane de la création. Que dit-on du point de vue musulman quand on dit que Dieu est créateur? C'est une affirmation qui est très présente dans le Coran, même s'il n'y a pas de récit de création, les mentions de Dieu comme créateur sont très présentes. Mais c'est toujours, comme dans ce récit d'Abraham, à un niveau apologétique. La création sert de preuve de l'existence et de l'unicité de Dieu. Tandis que dans la tradition judéo-chrétienne, les récits de création sont des récits d'une mémoire de libération. Donc des récits inscrits dans l'histoire du peuple de Dieu. Je crois qu'il est important de bien voir que les affirmations sur la création ne sont pas d'abord, ni dans le judaïsme, ni dans l'islam, des réflexions métaphysiques sur le statut de l'univers. Donc, on n'est pas du tout à ce niveau-là, mais c'est à partir d'une expérience de foi de rendre compte du monde dans lequel nous vivons. Du point de vue de la tradition juive, la foi en la création est mémoire d'une action de libération inscrite dans l'histoire du peuple. Dans la tradition musulmane, l'affirmation de la création est d'abord un argument apologétique pour soutenir cette expérience fondatrice du croyant musulman, c'est-à-dire cette expérience de l'absolue unité et unicité de Dieu. La foi en la création sert d'argument apologétique pour soutenir l'affirmation centrale de l'islam, à savoir l'unicité de Dieu. Et nous le voyons bien dans le chemin de foi d'Abraham, dans la mesure où c'est précisément la contemplation de la création qui lui permet de quitter le polythéisme de ses ancêtres pour reconnaître l'unicité de Dieu, reconnaître son unité et son rôle de créateur. La réflexion sur les signes naturels ou révélés a le même statut, elle est un chemin de connaissance des lois de la création qui permettront à l'homme de se diriger en toute sécurité sur la voie du salut promis par Dieu. On pourrait dire d'une certaine façon que les signes de la création peuvent être mis en parallèle avec les signes que constitue le texte révélé du Coran. C'est d'ailleurs le même mot qui est utilisé pour désigner les versets du Coran, ce mot « ayat », qui veut dire « signe ». Dieu donne des signes par la création et Dieu donne des signes également par le contenu de la révélation qu'il fait descendre de façon répétée sur les différents prophètes bénéficiaires d'une révélation. La révélation n'aurait alors pour objet que d'aider l'homme à connaître maintenant ce qu'il aurait finalement fini par découvrir avec le temps, s'il réfléchit et s'il contemple avec une raison juste les signes que Dieu donne dans la création. Le Coran connaît aussi d'autres événements de l'histoire d'Abraham qui soulignent d'autres aspects de sa foi, entre autres le sacrifice, ou plutôt le non-sacrifice de son fils, par exemple. Le texte coranique n'est pas clair sur l'identité de ce fils, mais une toute grande majorité des commentateurs y reconnaît Ismaïl, donc le premier fils d'Abraham, et c'est une façon évidemment aussi de pouvoir rattacher la tradition musulmane à ce patriarche Abraham sans devoir passer par le judaïsme. La descendance abrahamique par Ismaïl est évidemment importante du point de vue musulman, même si le texte du Coran n'est pas parfaitement explicite sur l'identité du fils. À la différence de la Bible, ce n'est pas Dieu qui demande le sacrifice, mais Abraham qui en reçoit l'appel dans un songe, qu'il raconte aussitôt à son fils, et Dieu va refuser l'offrande. Le souci, évidemment, de ne pas mêler Dieu à cette question du mal, car le sacrifice du premier-né symbolise ici le problème du mal auquel Abraham est confronté. Il pourrait alors se révolter et se poser alors en commencement absolu, construisant un monde à sa mesure. Mais il choisit de reconnaître sa finitude, ses limites, et jusque dans l'incompréhensible de s'en remettre à Dieu. La foi apparaît là comme une source de courage dans le combat contre l'absurde et d'espoir, car Dieu refusera l'immolation. Le théologien Mohamed Talbi conclura en disant que dans le sacrifice d'Abraham gît le sens le plus profond de l'islam, cette remise confiante de tout notre être à Dieu. Un Dieu tout-puissant dont les voies sont souvent décevantes et mystérieuses, mais aussi un Dieu infiniment bon et sage. Donc, dans la figure d'Abraham, il y a, pour le croyant musulman, mais vraiment, c'est un modèle du parfait musulman. Après ce trop rapide petit parcours des traits principaux dans les trois traditions, nous pourrions nous dire que finalement, Ibrahim, est à la fois le modèle du juif type, du chrétien type et du musulman type. Chacune des traditions projette sur le patriarche les traits qui font son identité propre. Et donc, on voit d'emblée que le recours à la figure d'Abraham pour penser le rapport interreligieux ne fait que reporter de quelques générations le problème, puisque dans nos représentations du patriarche, juifs, chrétiens et musulmans, nous projetons simplement ce que nous pensons de notre identité actuelle. Donc on n'arrive pas à un point commun, mais on reporte simplement le problème de quelques générations. Donc, de ce petit parcours, il ressort qu'Abraham occupe incontestablement une place importante dans chacune des trois religions monothéistes. Et donc c'est incontestablement un point commun de croire en un Dieu unique, de se référer à ce patriarche. Mais nous voyons dans le même temps comment chacune de nos traditions met en jeu la cohérence de sa propre foi pour se représenter ce patriarche. Nouveau commencement, rénovation du culte du Dieu unique, ou origine de l'alliance accomplie en Jésus-Christ. Chacune des traditions reconnaît aussi que cette figure a été décisive dans l'histoire de sa foi et exprime son identité. Mais il est sans doute délicat d'en dire davantage. Et je voudrais alors maintenant m'arrêter à trois enjeux qui me paraissent importants dans ce rapport à Abraham. C'était tout d'abord la question du rapport à l'histoire, l'utilisation de l'expression « fils d'Abraham », et puis de façon un peu plus longue, je voudrais m'arrêter à la référence abrahamique dans l'approche chrétienne de l'islam. Car dans une grande partie de la littérature qui essaie de penser le rapport islamo-chrétien, la référence abrahamique est très présente. Et il est important, me semble-t-il, d'essayer de voir d'où elle nous vient et son intérêt, mais aussi ses limites. Tout d'abord, le rapport à l'histoire. La figure d'Abraham, comme nous l'avons dit dans la tradition juive reprise sur ce point par la tradition chrétienne, marque réellement une entrée dans une histoire inventée ensemble sous le signe de l'alliance avec Dieu. Que ce soit l'alliance mosaïque pour les juifs ou l'alliance en Christ pour les chrétiens. Mais de part et d'autre, le temps et l'histoire sont introduits dans le processus de la révélation. Dieu se révèle à travers une histoire, à travers l'histoire d'un peuple. Babel symbolisait l'échec de l'occupation statique de l'espace, et Abraham marque l'ouverture à l'avenir dans une marche en avant. Tandis que, comme nous l'avons dit, pour la tradition musulmane, Abraham Ibrahim reprend le pacte originel qu'il s'agit d'actualiser et de rénover pour retrouver l'ère idéale que l'histoire ne peut que corrompre. Donc il y a une lecture négative ou un regard négatif sur l'histoire qui en vient toujours à corrompre ce que Dieu a donné dès l'origine. Nous l'avons vu la semaine dernière à propos de la question de la révélation. Finalement, la révélation dans la conception musulmane comme descente n'est jamais que la reprise de ce que Dieu a toujours révélé et qu'il avait déjà fait connaître en Adam. Donc une reprise à plusieurs moments de l'histoire de l'humanité pour restaurer ce que l'histoire des hommes avaient occulté. La figure d'Abraham, c'est ce qu'elle fait aussi, en fondant le monothéisme dans un peuple qui était polythéiste, qui ne reconnaissait plus ces signes de la création que Dieu avait pourtant donné et qui plaide clairement pour la reconnaissance de l'unicité de Dieu. Abraham reprend ce pacte originel. On serait d'une certaine façon ramené à la logique de Babel, c'est-à-dire l'extension dans l'espace d'une doctrine immuable. On pourrait dire aussi qu'on se retrouve dans l'âge pré-abrahamique de la tradition juive. En effet, pour reprendre une expression du professeur Moubarak, si le sens de l'histoire humaine n'est que dans la transmission de la connaissance de Dieu communiquée au premier homme, alors finalement l'histoire ne compte plus. Elle n'apporte rien qui n'était déjà. Tout a déjà été donné. Le but de l'histoire dans cette perspective n'est pas une longue marche vers la terre promise ou vers la manifestation définitive du Christ, mais l'extension à tout l'univers de la doctrine rationnelle est donc accessible à tous les hommes de bonne foi. Alors, on n'est pas là simplement dans une question de théologie, car les rapports entre les traditions religieuses, entre les communautés croyantes, se passent très concrètement au cœur de l'histoire. C'est à des moments historiques différents que des communautés de juifs, de chrétiens, de musulmans se rencontrent, s'entendent, se battent, se discutent, essaye de mieux se comprendre, c'est au cœur de l'histoire que cette rencontre a lieu. Et donc la mise en avant de la figure d'Abraham dans le rapport interreligieux risque d'occulter, ou au moins d'introduire un sérieux malentendu, sur tout ce qui fait la vie de chacune des communautés. Pour les uns, juifs et chrétiens, ce mouvement historique est quelque chose d'important, de déterminant, et donc ils y verront un signe des temps, hein, comme dira le Concile Vatican II pour parler, entre autres, de la rencontre des autres croyants. Hein. Dans l'histoire, il y a des signes, tandis que du point de vue musulman, l'histoire est ce qui occulte, tout est donné dans la création et dans le texte révélé du Coran. Les signes de Dieu sont à discerner de façon permanente et stable de la même manière. Donc la référence abrahamique peut, de ce point de vue-là, du point de vue du sens de l'histoire, bien, constituer plus un obstacle qu'une aide dans la rencontre. J'en dirais de même pour l'expression « fils d'Abraham ». Pour les traditions juives et musulmanes, être fils d'Abraham va de soi. Les uns par la descendance d'Isaac, les autres par la descendance d'Ismaël, mais les uns comme les autres revendiquent une filiation d'Abraham selon la chair, même si cette filiation est quelque peu fictive, car les conversions ont bien sûr assimilé aux sémites bien d'autres races. Pour les deux, cependant, la révélation est portée par un peuple particulier de la race d'Abraham, d'où l'importance symbolique qu'ils accordent aux généalogies, à la conversion fait entrer dans un peuple. Tandis que pour la tradition chrétienne, la filiation abrahamique, si elle est un thème bien présent dans le Nouveau Testament, elle se fait de façon toute différente. Elle ne se fait pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Elle se fait en Jésus-Christ, par l'Esprit Saint. D'un point de vue chrétien, l'expression « fils d'Abraham » met d'emblée en œuvre l'ensemble de l'économie chrétienne et précisément au lieu où elle se démarque du judaïsme, mais aussi de l'islam. Les textes pauliniens qui utilisent les références abrahamiques sont parfois particulièrement durs. Hein. Tous ceux qui sont de la postérité d'Israël ne sont pas Israël, et pour être la descendance d'Abraham, tous ne sont pas ses enfants. Ce qui signifie, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Comme descendance, seuls les enfants de la promesse entrent en ligne de compte. Et Paul n'hésitera pas à recourir même à l'allégorie de la femme libre et de l'esclave dans les Galates pour démarquer chrétiens et juifs. Mais évidemment, lorsque les musulmans se revendiquent de la descendance de l'esclave, les propos de Paul prennent une acuité évidemment très forte aussi. Un recours donc généreux au thème de la fraternité abrahamique, on peut se poser la question de savoir s'il fait bien droit à ce qui fait la cohérence de la foi chrétienne. Est-ce que quand nous parlons de fils d'Abraham comme chrétien, au sens où les traditions juives et musulmanes peuvent l'employer, puisque l'une et l'autre revendiquent une descendance selon la chair, est-ce que comme chrétiens, nous prenons bien la mesure que l'économie chrétienne met d'autres choses en jeu qu'une descendance selon la chair pour parler de la descendance d'Abraham. Il n'empêche que, comme je vous le disais, cette référence abrahamique est bien présente à la fois dans la littérature, mais aussi dans les documents officiels de l'Église. Alors, après tout ce que je viens de dire, ça vaut la peine d'essayer de comprendre ce qui se dit à travers cela et quelle en est un petit peu l'histoire. Dans les documents officiels de l'Église, c'est avec une grande prudence. Si on prend par exemple la Constitution dogmatique Lumen Gentium, elle dit à propos des musulmans au numéro 16, en déclarant qu'ils gardent la foi d'Abraham, ils adorent avec nous le Dieu unique. C'est donc une affirmation subjective qui vise à dire que les musulmans déclarent qu'ils gardent la foi d'Abraham. L'Église ne dit pas que les musulmans gardent la foi d'Abraham. Et effectivement, le texte voté de Lumen Gentium remplace une version qui a été amendée au cours des débats conciliaires, où il était dit « Les fils d'Ismaël qui, professant Abraham pour père, croient aussi au Dieu d'Abraham. » Donc, entre ce projet initial et le texte définitif, on est passé d'une perspective objective où l'Église se prononçait sur le lien abrahamique des musulmans à une perspective subjective où l'Église reconnaît simplement ce que les musulmans disent d'eux-mêmes. Et le texte voté ne fait plus non plus de référence à la généalogie selon Ismaël. Les débats conciliaires ont ainsi permis de mettre en évidence les ambiguïtés de la référence abrahamique et ils se sont arrêtés à une prise en compte des affirmations subjectives. Et c'est sans doute une rigueur qu'il faudrait toujours garder pour réellement faire droit à ce que chaque tradition veut dire lorsqu'elle parle d'Abraham, de bien entendre ce que chacun dit et de ne pas trop vite projeter ce que nous disons nous-mêmes en croyant que les autres disent la même chose. Et il faut dire que l'on ne retrouve pas toujours ce souci de prudence chez celui qui fut l'instigateur de ce qui peut bien être considéré, selon sa propre expression, comme une révolution copernicienne dans le regard chrétien sur l'islam, à savoir Louis Massignon, qui a vécu de 1883 à 1962. Les écrits de Louis Massignon ont fortement marqué toute la génération des chercheurs chrétiens du XXe siècle dans son entier, et en particulier tous ceux qui ont participé au Concile Vatican II. Donc les travaux de Massignon ont très certainement contribué de façon décisive à l'évolution du regard chrétien sur l'islam, mais en même temps, il y a certaines imprécisions dans la façon de s'exprimer de Massignon qui ont parfois quelque peu brouillé les cartes. Quand Louis Massignon parle de voir d'une révolution copernicienne dans le regard chrétien sur l'islam, ce qu'il veut dire, c'est que pour lui, il s'agit de voir l'islam non plus de l'extérieur, mais qu'il faut se placer par un renversement à la Copernic, suivant son expression, au centre même de l'islam, là où vit cette étincelle de vérité dont se sustente invisiblement et mystérieusement tout le reste. Et en prenant cette perspective-là, Massignon soulignera que pour lui, l'islam est l'héritier d'Agar et d'Ismaël, ceux que la Genèse nous dit, dont la Genèse nous dit qu'ils ont été chassés au désert, tout en bénéficiant d'une bénédiction spéciale. Si vous relisez les différents textes de la Genèse, au chapitre 16, 21 ou 25, vous verrez que ces textes sont tout à fait impressionnants. Donc il y a Agar et Ismaël se trouvent à la fois chassés au désert, mais bénéficiaires d'une bénédiction spéciale. Et Muhammad, pour Massignon, récupère cette bénédiction d'Ismaël à l'heure providentielle et symbolique. Expatrié de son pays, la Mecque, comme Abraham de Our et Ismaël chassé au désert. Il revendique l'héritage d'Abraham contre Israël, infidèle à son alliance, et contre les chrétiens, infidèles à Jésus. Et il se retourne alors de nouveau vers la Mecque, en orientant alors la Qibla vers la Kaaba, fondée par Abraham avec l'aide de son fils Ismaël, et il fonde le pèlerinage, sommet de la religion musulmane, qui comporte le sacrifice d'un agneau, comme la Pâque. Mohammed, semblable à un Abraham pris de nostalgie et qui rentrerait à Our, symbolise le retour des expatriés de l'alliance d'Abraham. L'islam est donc le rassemblement des exclus qui revendiquent l'héritage d'Abraham contre tous les nantis religieusement. L'islam est un schisme abrahamique antérieur au décalogue qui fonde le judaïsme et à la Pentecôte qui fonde le christianisme, et il a pour rôle de préparer des millions d'hommes par la retraite au désert à reconnaître la vraie Maïda, hein, cette table plus ou moins eucharistique dont parle le Coran à la sourate 5, les versets 112 et 115, et que Louis Massignon développera comme une figure eucharistique. Et Massignon verra ainsi l'islam comme irrigué de grâce mariale et chrétienne depuis sa fondation. Donc, on a là, dans l'expérience spirituelle de Massignon, il faut se rappeler qu'il a redécouvert la foi chrétienne à la rencontre de l'islam. Donc, sa conversion est liée à la rencontre de l'islam, et donc, il développera toute une vision spirituelle de relecture de l'islam pour reconnaître cette grâce en fidélité aussi à ce qu'il lit dans les écritures chrétiennes et juives, en particulier cette bénédiction à Ismaël. Et il faut dire aussi que Louis Massignon était un homme très engagé, socialement, le souci des plus pauvres, le souci aussi de la libération de l'Algérie. C'est aussi son souci dans sa relecture religieuse, fonde aussi ses engagements de type sociaux. C'était un homme fortement engagé. Et il rejoint par là néanmoins quelque chose qui est très présent en islam. J'ai eu l'occasion il y a quelques années d'étudier un petit peu à l'université de Rabat. Donc on était un certain nombre d'étudiants étrangers, dont une série d'Africains subsahariens, dont parmi eux certains chrétiens. Et je me rappelle que pour les étudiants marocains, c'était une très grosse interpellation de découvrir qu'un Africain pouvait être chrétien, alors que c'est la religion des riches, alors que l'islam est la religion des pauvres. Comment est-ce qu'un Africain subsaharien peut être chrétien? Donc cette conscience que l'islam a son identité abrahamique comme récupération de cette bénédiction de celui qui a été chassé au désert, Ismaël, c'est cette récupération pour l'ensemble des pauvres de l'humanité. Et ces thèmes accompagneront toute la recherche et l'engagement de Massignon. Sa méditation continuellement reprise sur les trois prières d'Abraham en témoigne, prière sur Sodome, sur Ismaël et sur Israël. Et de son retour au christianisme en 1908 à sa mort en 1962, il en a écrit des versions successives, en tenant compte à la fois des réactions et des commentaires du cercle restreint d'amis à qui il les avait diffusés sans jamais vouloir les publier. Il y développe une méditation inédite, étayée par l'érudition, animée par la rage laïque de comprendre, c'est aussi une de ses expressions, c'était quelqu'un qui voulait comprendre Louis Massignon, cette rage laïque de comprendre ce cheminement de la révélation dans l'histoire des trois grandes religions monothéistes pour en déchiffrer le sens, tentative sous-tendue par une foi ardente et une vision prophétique aussi du devenir humain. Nul ne songe bien sûr à nier la profondeur et la sincérité de Massignon dans cette vision de l'islam de type prophétique, avec ses images fulgurantes, beaucoup de souffle, ces thèmes qui s'entrecroisent et s'enchaînent, affectivement et intuitivement plus que logiquement, son jeu continuel avec l'érudition, parce que c'était un très grand savant, hein, l'exégèse allégorique, la poésie, la mystique. Massignon était incontestablement un lanceur d'idées et un apôtre engagé non sans risque dans la défense des musulmans victimes d'injustice, pendant la guerre d'Algérie en particulier. Il se défendait d'être un théologien et s'est toujours montré réservé devant les essais visant à traduire ses intuitions sur le plan théologique. Mais il n'en reste pas moins que sa vision de l'islam aura dominé dans le monde chrétien le XXe siècle. La plupart des essais des islamologues chrétiens sont des reprises et des développements des idées que Massignon a lancées, et aucun n'échappe d'une façon ou d'une autre à l'influence de Massignon. Celle-ci, en tout cas, aura profondément agi sur la conscience chrétienne et préparé directement Vatican II, qui s'ouvrira juste avant sa mort. Il faut dire que le renversement qu'il opère est effectivement copernicien. Hein, donc le regard que les chrétiens, nous aurons l'occasion dans deux cours d'y revenir un petit peu plus, que les chrétiens portaient sur l'islam, a pratiquement toujours été un regard de mépris, de rejet, de dénigrement. Et avec Massignon, nous avons pour la première fois quelqu'un qui essaie d'intégrer à sa propre expérience spirituelle chrétienne un regard valorisant, hein, pour l'expérience musulmane. C'est donc Massignon qui nous a légué le thème abrahamique pour repenser le rapport à l'islam. Le propos ne se veut pas chez lui théologique, mais il vise d'abord à inspirer un engagement généreux en faveur des peuples musulmans dominés et injustement traités. Il veut les réintégrer dans la famille, alors que tant de choses les en excluent de fait. Sans contester la générosité de la vision et de l'engagement de Massignon, il ressort aujourd'hui que les propos marqués par l'époque sont peu soucieux de faire droit à ce que les musulmans disent d'eux-mêmes. Il y a un certain ton paternaliste dans les propos de Massignon et une christianisation de l'islam qui traverse son œuvre jusque dans ses traductions. J'ai eu l'occasion de travailler un petit peu sur les traductions qu'il avait proposées du Diwan de El Hallaj, ce mystique musulman. Le Diwan, c'est un recueil de poèmes. Et donc, Massignon a fort valorisé cette figure de Hallaj en en faisant une figure quasi christique au sein de l'islam. Et donc, dans ses traductions du Diwan, il projette de façon inconsciente sans doute, mais c'est très frappant, sa propre expérience chrétienne, et il christianise encore plus Hallaj que le schéma de sa vie pourrait déjà le suggérer. Donc il y a un homme enthousiaste, un grand savant, un homme très engagé, mais qui risque d'infléchir le regard sur l'islam pour, alors qu'il souhaite rejoindre cette étincelle intérieure qui irrigue l'ensemble du corps, finalement, il y a quand même une forte christianisation de l'expérience musulmane telle qu'il la relie et telle qu'il l'a présentée à travers ses écrits grand public. Nous sommes les héritiers de Massignon, c'est clair, au sens où son œuvre incontestablement joue un rôle central pour un regard renouvelé des chrétiens sur l'islam. Mais je pense que la fidélité à l'héritage qu'il nous a légué pourrait bien nous imposer de dépasser aujourd'hui aussi sa perspective pour faire davantage droit à ce que chaque tradition religieuse dit d'elle-même dans sa cohérence propre. À Massignon, écrit au moment où l'Algérie est colonisée, donc il est très soucieux des injustices subies par les musulmans algériens, mais son point de vue reste un point de vue de colonisateur, un point de vue quelque peu paternaliste, et il y a cet aspect de christianisation. Donc là, je crois que la fidélité à l'héritage de Massignon ben, impose en même temps hein, de dépasser la perspective qui a été la sienne, tout en reconnaissant ben, la dette que nous avons à son égard, car il est celui qui a permis aux chrétiens ben, de surmonter les regards simplement méprisants qui étaient portés sur l'islam. Il y a là un enjeu, me semble-t-il, important, hein, donc au niveau du rapport à l'histoire, au niveau de la rencontre aujourd'hui. Je crois que cette question d'une rencontre égalitaire hein, est une question très importante et qu'il reste un complexe très marquant vécu par le monde musulman à l'égard de l'Occident identifié au christianisme. C'est dû à l'histoire. Nous avons vu dans notre perspective historique hein, de long terme, dans les grandes lignes, comment ben, la fin de l'Empire ottoman et la suppression du califat ben, avaient marqué de façon symbolique très nette hein, cette domination de l'Occident sur le monde musulman. Et tous les penseurs musulmans du XXe et du XXIe siècle sont hantés par cette question de savoir mais comment est-il possible que ce monde musulman qui a été tellement prestigieux, bien plus que l'Occident à une époque, se trouve aujourd'hui à ce point décadent et dominé par l'Occident. Donc la question d'un rapport égalitaire, d'une vraie reconnaissance, que Massignon aperçut hein, en voulant réintégrer par le biais de la bénédiction faite à Ismaïl dans la grande famille humaine universelle, cette question reste aiguë aujourd'hui et ce n'est pas simplement des descendants d'esclaves qui demandent aujourd'hui à être reconnus. Et donc toute la question de l'histoire, de la violence et d'une reconnaissance égalitaire sont très certainement un des points auxquels nous devons être très vigilants et où la référence abrahamique peut parfois nous induire en erreur si nous manquons de rigueur pour bien percevoir ce qui est en jeu lorsque les uns et les autres se disent fils d'Abraham. Voilà. Bonne soirée.